Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Studio Zef. Il est 17h et vous êtes dans la lorgnette. Dans le cadre de la semaine L, impulsée par la ville de Blois, la maison de la BD accueillait le 10 mars dernier Shadia Shaibi Loulet-Slati, autrice de l'ouvrage « Liberté, égalité, s'émanciper », qui a été récompensée par le prix des lycéens et lycéennes de la BD à portée citoyenne lors du festival BD Boom 2025. Un roman graphique qui fait suite à deux précédents tomes, Famille nombreuse et Mes vacances au bled, la saga d'une famille tunisienne, la découverte d'un pays, la France, et de toutes ses bizarreries culturelles et administratives au travers de l'épopée de cette famille immigrée. Une adolescence marquée aussi par des règles familiales strictes, où les filles doivent obéir pendant que les garçons jouissent de liberté. Résistante face à cette injustice, Shadia s'impose comme la première fille de sa fratrie à obtenir le bac. À travers son récit, elle incarne une voix puissante, celle d'une femme résiliente qui a su transformer la douleur en combat et le combat en œuvre. Nous vous proposons donc cette semaine dans la lorgnette la réécoute de cette rencontre. Bonne émission!
Bonsoir à tous! Merci de vous être déplacés sous la pluie pour venir, à cette rencontre à la Maison de la BD à l'occasion de cette belle semaine L. Shadia, merci d'être venue à cette rencontre. Cette rencontre, c'est principalement pour parler de l'un de tes derniers albums qui est Liberté, Égalité, S'émanciper. Mais avant d'attaquer un petit peu le vif du sujet, on va parler un petit peu de toi, de ton travail. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et d'où te vient cette passion pour la BD ? D'accord.
Bonsoir à tous, merci d'être venus malgré la pluie. Je suis ravie d'être ici, je suis très attachée à la ville de Blois et à ce qui s'y passe culturellement. Je trouve que c'est, comme je disais à Joanne, c'est the place to be. Donc moi je suis Shadia Loueslati, je suis scénariste et dessinatrice de bande dessinée, mais ce n'a pas toujours été le cas. J'ai commencé il y a une quinzaine d'années dans les livres avec la jeunesse et j'ai basculé dans la bande dessinée quand j'ai perdu mon père et ma mère l'un après l'autre. Mon père est décédé d'une crise cardiaque, ma mère n'a pas supporté, elle est tombée malade et elle est décédée juste après et je me suis retrouvée sans mes parents. Et un détail très important, c'est que je suis la sixième d'une fratrie de 12 enfants. Je suis l'enfant du milieu, celui qu'on dit invisible, mais ce n'était pas mon cas. Et en fait, je suis venue à la bande dessinée déjà parce que j'ai toujours lu de la bande dessinée et qu'en tant que fille, il n'y avait que deux endroits où on avait le droit de sortir, c'était l'école et la bibliothèque. Et moi, quand je suis rentrée dans la bibliothèque, c'est comme quand vous donnez un portable à un ado. C'est pareil, il se précipite dessus, moi j'étais exactement pareil. Et j'ai trouvé que c'était un médium assez intéressant, notamment le roman graphique, pour raconter l'histoire de mes parents, pour que plus tard, mes enfants puissent savoir qui étaient leurs grands-parents, quelle était vraiment l'origine, le point de départ du pourquoi on est en France. Et c'est ce que je raconte à travers mes livres.
Du coup, moi, j'ai eu la chance de lire tes livres avant de te rencontrer. Donc, tu m'as dit que tu t'étais mis à la BD et aux livres jeunesse il y a 15 ans. Mais est-ce que tu as réussi, du coup, à faire des études dans la BD ? Ou est-ce que ça ne s'est pas... Alors, je triche un peu, j'ai lu des BD. Moi.
Alors, je vous avoue que j'ai commencé à écrire des textes à l'âge de 11 ans. Et j'étais excellente pour ça. J'étais le genre d'élève, je vous le dis tout de suite. Quand elle avait 15 en français, elle disait « Oh, j'ai une mauvaise note hein. ». Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, je ne disais pas pareil en maths. Si j'avais 2, je disais « Ouh, il y a de l'évolution ». Voilà. Et donc, j'ai commencé vraiment à lire très, très jeune, à écrire très, très, très jeune. Ça m'a en fait jamais quittée. Je l'ai mis de côté. Et pour le coup, j'ai oublié ta question. Oui, les études. J'ai voulu faire les beaux-arts parce que j'écrivais déjà. Moi, en sixième, je vous dis tout de suite, en sixième, si vous avez un peu de temps, j'ai un pote qui est venu me voir comme ça. Et quand il marchait, ses poches, elles faisaient du bruit parce que son père tenait un café et il lui donnait tous les pourboires. Ce qui fait que quand il marchait, ça faisait chling, chling, chling. Un peu comme le Père Noël quand il arrive. Et il vient me voir, il me dit « Oui, Shadia, toi, t'es bonne en français, j'aimerais bien que tu me fasses mes fiches de lecture ». Ce à quoi je réponds non. Je lui dis, écoute, chez moi, je suis déjà l'esclave de mes frères, je ne vais pas être ton esclave à l'école. Et j'allais partir et il m'a dit, je te paie. Et là, comment vous dire que mes oreilles se sont dressées comme un chien, d'accord ? Et je me suis retournée, je lui ai dit, oui, combien ? Il m'a dit, bon, 50 euros la fiche de lecture. Ouh, c'est bien, oui, je suis d'accord. C'est ce que j'ai dit aussi, j'ai dit, oh, vraiment, pour quelqu'un qui n'avait jamais eu d'argent de poche, c'était, ouh, c'était une somme folle. Et il m'a dit, je veux 18, sauf que d'habitude, il avait 4-5 en français. Je lui ai dit, non, on va faire d'abord une analyse de tes fautes d'orthographe, de ta syntaxe, et comment vous dire, il n'a jamais entendu parler du pluriel. Et je lui ai dit, écoute, ce que je peux faire pour toi, pour t'aider, c'est t'obtenir un 12. Il m'a dit, ok. Et il a eu 12 de moyenne, son père il lui a doublé son argent de poche. D'accord ? Donc c'était vraiment formidable. Mais c'était quelqu'un qui avait tout le temps de la marque sur lui. Son père lui faisait venir ses chaussures des États-Unis. Moi, enfin, je ne sais pas si vous savez ce que veut dire les trois bandes dans Adidas. Les trois bandes dans les chaussures. En fait, ce sont les syllabes. Syllabes. Ben, je parle comme ma fille. Ce sont les syllabes Adidas. Moi, j'avais que deux bandes dans mes chaussures. Donc tout le monde m'appelait Adi. D'accord ? Et je rêvais de m'acheter une paire d'Adidas. Donc, il était content, son père lui a doublé son argent de poche, il est revenu me voir, il m'a dit « Shadia, c'est magnifique », il en a parlé à tout le monde. Et je ne veux pas être sexiste, ou je vous jure que c'est que des garçons qui sont venus me voir, parce que nous, les filles, on n'a aucun problème avec le français. Je me suis retrouvée à faire des fiches de lecture pour tout le monde, pratiquement, enfin, surtout pour une classe en particulier. Et il fallait que je tienne un petit carnet de bord, parce qu'on me versait 50% au début. J'avais 12 ans hein, quand je faisais ça. Et 50% après. Et j'ai caché le petit carnet pour pas que ma mère le voie, bien entendu. Et un jour, je rentre de l'école et elle me dit, ce jean là que tu portes, il vient d'où ? Je lui dis, maman, c'est toi qui l'as acheté. C'est un jean Levi's. Elle a dit, arrête de mentir. Je cherchais le mensonge que j'allais lui dire et là, elle m'a sorti le carnet. Elle l'a ouvert, elle m'a dit, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il y a autant de prénoms masculins et des sommes à côté ? Voilà, donc j'ai arrêté tout de suite. Je me suis dit, non maman, en fait, je fais des fiches de lecture. Voilà, c'est sorti tout seul. Et j'ai jamais continué d'écrire, mais quand j'écrivais, ma mère, elle lisait, vérifiait que c'était pas... Bon, après, elle est partie voir le proviseur. Enfin, d'abord, elle est partie voir tout le monde sur la liste pour aller dire à chaque parent quel enfant... Oui, et après, elle m'a dit, on va voir le proviseur pour qu'il sache qui il a dans ses rangs. Voilà, je referme la parenthèse. Arrivée en terminale, j'ai voulu faire les beaux-arts parce que j'écrivais déjà. Et j'ai voir ma mère, je lui dis, maman, voilà, je vais faire les beaux-arts. Et elle me dit, mais... Les Beaux-Arts, c'est pas là-bas où il y a des hommes tout nus que tu dessines. Je dis, mais maman, en fait, ils sont là, ils font des positions pour que tu regardes. Elle m'a dit, elle m'a dit, ils font des positions et toi, tu regardes. Je lui dis, oui, mais il n'y a pas que des hommes, il y a des femmes. Elle m'a dit, ah, et ça a l'air de te plaire. Elle m'a dit, écoute-moi bien. Elle m'a dit, le seul homme nu que tu verras, ça sera ton mari. On est d'accord ou pas ? Je lui dis, ok, mais qu'est-ce que je vais faire ? Elle me dit, mais je ne sais pas moi, médecine. Je lui ai dit, maman, je lui ai dit, médecine, tu regardes et tu touches. Et là, elle m'a dit, tu me dégoûtes. Et elle m'a dit, tu feras du droit. Au moins, là-bas, ils sont habillés. En plus, ils ont une robe. Donc, pour répondre à ta question, tout ça pour en venir là, je n'ai jamais fait d'études d'art. J'ai fait des études de droit. Et après, tout ce que j'ai appris, je l'ai apprise toute seule. En fait, je suis autodidacte dans ma formation de dessin. Mais je dois beaucoup aussi à mon mari qui a fait l'école des Gobelins et qui m'a initiée au dessin. Voilà, tout ça pour ça, en fait.
Donc, tu nous disais que tu as pris connaissance de la BD beaucoup quand tu allais à la bibliothèque. Est-ce qu'il y a des références des auteurs qui t'ont vraiment marqué et dont tu retrouves l'inspiration dans ton travail ?
Alors, je suis une grande fan de Gottlieb, de Reiser. Je lisais absolument tout à l'école. Hein. J'ai lu aussi bien des romans que des essais, des nouvelles, de la bande dessinée, des romans à l'eau de rose, un peu moins. Parce que quand je rentrais chez moi, ma mère me disait « Pose-moi les livres sur la table, s'il te plaît. » Et elle lisait le roman. Et à partir du... Enfin, elle lisait le résumé, pardon. Et à partir du moment où le résumé ne lui convenait pas, j'avais pas le droit de lire le livre. Sauf que la bibliothécaire, c'était ma copine. Et elle m'a dit, attends, il existe une autre couverture pour ce livre où il n'y a rien derrière. Donc, si jamais ici, il y a des imprimeurs, pensez à ne rien mettre derrière. Ça peut être sympa aussi. Et j'ai pu lire vraiment tout. Mais je dirais que vraiment la personne qui a bercé mon enfance, c'est Gottlieb.
Et dans ton travail, comment l'idée te vient lors de la création d'un album ? Est-ce que c'est forcément, ça peut être des commandes ou c'est toi qui crées aussi ? Et comment tu te mets à travailler ?
Alors, ça dépend. Notamment là pour la trilogie Famille nombreuse, Nos vacances au bled et Liberté, égalité, s'émanciper, c'est mon histoire familiale que je veux retranscrire, que je veux surtout transmettre à mes enfants. Mais en règle générale, ça va dépendre. Parfois, il y a une idée qui va me venir, notamment pour Fumer, qu'on voit là. C'est une idée qui m'est venue parce que, bien entendu, chez moi, il y avait beaucoup d'interdictions et moi, j'ai rien compris en fait. J'ai été voir la liste des interdictions, j'ai dit, ça c'est pas mal. Fumer notamment, Donc je me suis mise à fumer et je me suis rapidement rendu compte que c'était un engrenage sans fin parce que la première fois que j'ai fumé, alors j'adore dire des anecdotes, j'espère que vous avez du temps. La première fois que j'ai fumé parce que je voulais intégrer un groupe. Et dans le groupe, il y avait un garçon qui était super beau, mais pas aussi beau que toi, chérie. Et ce garçon a sorti son paquet de cigarettes et m'a dit « Est-ce que tu veux une cigarette ?» Et moi, j'ai entendu « Tu veux sortir avec moi ?» Donc j'ai dit oui. Et au final, il est sorti avec ma copine et j'ai gardé l'addiction. Et j'ai compris bien plus tard que le tabac était beaucoup plus addictif que la cocaïne. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire en fait cette bande dessinée un peu électrochoc. Pour Oum Kathoum, c'est une journaliste, Nadia Atroubi Safsaf, qui est la rédactrice des Courriers de l'Atlas, qui m'a demandé, m'a dit voilà, ce serait sympa qu'on fasse une BD ensemble. Et je lui ai dit écoute, moi j'aimerais beaucoup faire sur Oum Kathoum parce que ça s'est jamais fait, etc. Enfin, toutes celles qui sont là, à part Cléopâtre, Harcelée plus jamais et Surya, tout le reste, c'est une idée originale, enfin originale, je sais pas, mais une idée de moi. Mais ça peut, voilà, je peux travailler en binôme, donc on va me contacter, on va me demander de faire des essais, notamment pour Surya Bonali. J'avais le choix entre elle ou Grace Gayoro. Grace Gayoro, c'est la capitaine du PSG, donc équipe de foot féminin. Je respecte toutes les femmes et quel que soit ce qu'elles font, le foot, c'est pas mon truc en fait. Quand mon mari regarde le foot, je suis là. Je suis en dépression à côté. Voilà comme ça. Je suis en dépression, mais vraiment. Et il a compris vite fait. Et comme il n'aime pas que je sois en dépression, il a zappé le foot pour moi. Et pour ça, je l'aime. Bon, peut-être qu'il regarde en cachette. Mais bon, c'est pas grave, il a le droit. Donc, je ne suis pas très foot. Et je me suis dit, si je travaille avec Grace Gayoro, quand les journalistes vont m'interviewer ou m'interroger, qu'est-ce que je vais pouvoir dire là-dessus ? Par contre, Surya Bonali, on m'a dit, bon, bah, y a Surya Bonali aussi. Je me suis dit, oui, Surya Bonali, j'ai grandi avec elle. Quand j'ai regardé le patinage artistique la première fois, c'est elle que j'ai vu traverser la glace. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué les esprits. Elle a marqué toute une génération, quoi. Donc, je me voyais plus faire cette bande dessinée-là que celle avec Grace Gayoro. Et en général, c'est comme ça dans tout ce que je fais. Si j'ai pas de ressenti par rapport à ce qu'on me propose, même si c'est bien payé, bah, je vais dire non, parce que si je me sens pas en adéquation avec quelque chose, je le ferai pas.
Quand c'est ta propre idée, combien de temps tu mets à travailler pour réaliser ton album ?
Alors, moi, j'ai la mauvaise habitude de faire des albums aussi gros que des bottins. Je fais des gros pavés comme ça en bande dessinée, beaucoup moins maintenant, j'essaie vraiment d'en faire des moins gros. Mais en moyenne, il faut compter entre la scénarisation, le storyboard, les recherches, parce qu'on oublie souvent aussi la partie recherche, parce qu'il y a une partie aussi scénaristique qui est très importante et on oublie souvent le travail du scénariste et c'est un travail monstrueux de recherche, etc. Je dirais entre un an et demi et deux ans selon l'épaisseur de la bande dessinée. Donc ça fait beaucoup de temps à passer avec sa famille, tous les jours.
Et ça te fait quoi à la sortie de l'album que tu as tant travaillé ?
Alors une espèce d'excitation de l'avoir entre les mains, de lire, et puis le truc qu'on a, je suppose tous, en tant qu'auteur ou autrice, c'est de l'ouvrir et de se dire oh, « j'aurais dû mettre ça ici », etc. Donc à un moment donné, savoir se dire « stop », et après j'attends le retour des gens. Mais j'essaie vraiment de pas... On est impatient, mais voilà, je m'offre un cadeau quand j'ai fini une bande dessinée. Je me dis, tiens, c'est pour toi. Après, je fais, oh, un cadeau. Enfin, vraiment, je mets toute une mise en scène. Et puis, des fois, c'est une douleur. Surtout pour ceux qui concernent ma famille, quand j'ai refermé certains chapitres, j'ai eu une... Enfin, je traversais plein d'émotions. Oum Kathoum aussi, ça a été... Oum Kathoum, j'ai carrément pleuré à la fin, parce que j'ai dû visionner son enterrement, en fait, toute la cérémonie. La cérémonie, j'ai du mal à parler ce soir, je suis émue. Toute la cérémonie qui a été mise en place en Égypte, et ça m'a fait pleurer parce que... Donc voilà, donc je passe par plein d'émotions, mais c'est toujours un soulagement et à la fois une tristesse parce qu'on vit très longtemps avec cette bande dessinée, puis c'est un peu le... Maintenant, ça y est, on la laisse entre les mains d'autres personnes, ça n'est plus à nous et c'est en ça que ça laisse une petite boule au ventre, quoi.
On va parler un petit peu de ta trilogie. Tu présentes pas forcément toujours comme ça, mais...
Moi, j'aime bien dire « like Star Wars », comme ça, mais c'est famille nombreuse, voilà.
Il faut en faire d'autres, hein, du coup.
Ouais, non, je me suis tiré une balle dans le pied toute seule. C'est qu'à la mort de mes parents, j'ai invité tous mes frères et sœurs, on a mangé, on a bien bu, c'était sympa, c'était « ouais !» Après, j'ai sorti un contrat, je leur ai dit « s'il vous plaît, vous me signez ce contrat », qui stipule que... j'ai fait du droit, voilà, qui stipule que vous ne m'attaquerez jamais pour diffamation et que vous ne me réclamerez aucun centime, quel que soit le succès du livre. Et j'ai même précisé que j'ai encore fait mieux qu'un éditeur, j'ai ouvert sur tout support. Donc je ne l'ai pas décliné que sur la bande dessinée. Et ils m'ont tous dit oui. Ouais, ok, on va signer. Ils ont tous signé. Et là, je rêvais d'en faire un quatrième et ils m'ont tous sorti le papier en me disant trois.
Bon, ils râlent déjà suffisamment dans tes albums.
Ah oui, oui. Ah oui, oui. Au début, je leur montrais les scénarios et en fait, j'avais plus de retours que de mon éditeur. Et ça me faisait double boulot, voire triple, parce qu'ils m'ont donné double du travail. Et je leur ai dit, mais ça suffit quoi, les retours. Ils m'ont pris pour Karl Lagerfeld. Est-ce que tu peux me mettre tel pantalon pour Franck Provost ?
Il y en a que t'as gâté au niveau vestimentaire quand même.
Oui, je sais, mais bon, après, ils me l'ont bien fait payer. Et donc, comment vous dire, c'était. Au début, je leur faisais montrer, après, j'ai dit non, stop, maintenant, ça va être découverte, surprise. Et voilà, ça a été vraiment surprise. Donc, c'était plutôt sympa.
C'est vraiment à la mort de tes parents que tu as voulu faire ces bandes dessinées-là ou c'est quelque chose qui était déjà présent ?
Non, parce que ma mère, elle m'aurait jamais permis de parler d'elle. Je crois qu'elle m'aurait fracassé la tête avec la tranche du livre. Non, c'est pas vrai. Mais je pense que... Non, peut-être que si. Mais ça aurait été ma mère qui aurait écrit le livre, en fait. Comment vous dire ? Elle aurait été mon écrivain public. Non, c'est vraiment à la mort de mes parents. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... On est 12 enfants, donc ma mère a été enceinte pendant une période de 21 ans. Ce n'est pas un éléphant, une période de 21 ans, ce qui veut dire une fois tous les ans, voire une fois tous les deux ans. Et on s'est tous mariés après, les uns après les autres, comme ça. Chaque année, il y avait des mariages. Chaque année, il fallait changer de robe. Celle de l'année dernière a été obsolète. Et mes parents sont décédés juste après. Et c'est là où on était pratiquement tous enceintes. Il y avait des tout petits enfants. Enfin, mes parents n'ont pas connu les petits enfants. Il y en avait qui étaient en cours de fabrication, certains en cours de téléchargement aussi. Et je me suis dit, c'est pas possible que nos enfants ne sachent pas quel a été le parcours de mes parents pour qu'on puisse aujourd'hui être là et pouvoir se dire « Oui, je suis en troisième année d'ingénieur. » Et je dis souvent « Oui, mais c'est grâce à papy qui est parti un jour, qui est venu en France. » Pour moi, c'est important de connaître son histoire, de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on doit aller.
Tu, bah là, du coup, tu nous parles de ta famille qui était beaucoup présente même pendant la création du coup, de tes albums. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans la création de ces albums-là ? Comment tu... C'est retranscrire tes émotions, c'est plutôt savoir représenter tes membres les membres de ta famille avec fidélité. Qu'est-ce qui t'a... Ou plutôt voir le contexte familial à mettre en avant.
J'ai entendu un jour une phrase que j'ai trouvée juste. C'est un grand malheur d'avoir un auteur dans sa famille. Parce qu'en fait, il s'inspire de vous, quoi. Et la plus grosse difficulté que j'ai eue, c'était de me taire. Parce que vous l'avez remarqué, je suis extrêmement bavarde. J'adore. Et ça a été de me dire, non, là, j'arrête. Là, il faut que je garde ça secret. Que, voilà, c'est vraiment de s'auto-censurer, quoi. C'est ça, la plus grande difficulté. Et après, il y a une autre difficulté aussi qui se pose, c'est de devoir faire... Avec mes sœurs, ça fonctionne très bien, mais mes frères m'ont dit, non, c'est pas vrai, ce que t'as mis dans la BD. Nous, on faisait des tâches ménagères aussi, dans un monde parallèle peut-être.
Ils allaient faire les courses.
Oui, ils allaient faire les courses et parfois c'était même ma mère qui y allait et eux ils allaient porter les sacs dans la voiture jusqu'à la maison et même là on les entendait voilà, c'était moi pour aller descendre d'une poubelle, je passais devant le miroir et je me coiffais parce que j'étais contente. J'allais descendre, j'allais sortir. Même pour une poubelle, c'est pas grave, ça me faisait sortir. Et c'était vraiment aussi ce côté-là où non, oh, ou alors j'ai un de mes frères qui m'a carrément dit écoute, moi je suis désolée, je ne me suis pas rendu compte de tout ça. En fait, comme il vivait dans cette espèce de ouatine réservée aux garçons, bah, il ne s'est pas rendu compte que nous, on passait l'aspirateur devant lui, que son petit déjeuner était prêt dès qu'il se levait, que sa chemise a été toujours repassée comme ça. Et je veux dire, ça a été les plus grosses difficultés.
Dans Famille Nombreuse, donc là, il y avait la naissance de... Vous êtes 11, parce que le dernier arrive après.
On est 12. Le petit dernier, oui, on est 11, t'as raison. Oui. C'est moi qui dis n'importe quoi. T'as raison, on est 11.
Dans cet album-là, moi, quand je l'ai lu, ta mère, c'est Wonder Woman.
Ah, mais complètement.
Surtout pro de la Javel.
Oui.
Et surtout très rentre dedans.
Ah, oui.
Qu'est-ce que tu retiens de ce début de ce premier album par rapport à ta maman ? Comment...
En fait, je voulais montrer par ce premier album à quel point... En fait, je voulais placer les personnages avec leur personnalité, etc. Et c'est vrai que ma mère, elle est surprenante, quoi. C'est vraiment une femme surprenante parce que quand mes parents sont arrivés en France dans les années 70, ils habitaient un vieil immeuble, un petit studio. Il y avait un évier dans un coin et pas de toilette, pas de douche. Et il y a un agent immobilier qui est venu et qui a proposé à tout le monde d'acheter un appartement sur Paris à des prix défiant toute concurrence. Donc, il pose les plans. Tout le monde investit son argent et la personne part avec l'argent. Ma mère est partie voir les voisins en leur disant il faut porter plainte, il ne faut pas qu'on se vienne se faire arnaquer. Certains n'ont pas voulu parce qu'ils n'étaient pas en situation régulière. D'autres préféraient raser les murs. Et ma mère, elle n'a pas laissé passer ça. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait ? Comme mon père lui offrait des bijoux à chaque naissance, autant vous dire que c'était Cléopâtre, elle a vendu des bracelets qu'elle avait et elle a récupéré une liasse de billets. Elle est partie voir un détective privé et elle lui a dit « Je te donne tout ça si tu me retrouves cette personne ». Et il lui a dit « Oui, madame ». Une semaine après, elle a retrouvé le détective privé. Et là, on peut couper la caméra. Là, ma mère s'habille comme si elle allait à un bal. Elle s'habille super bien, talons, etc. Elle va dans la cuisine, elle prend un couteau comme ça. Et en chantonnant, elle fait « Elle regarde s'il rentre dans son sac. Elle fait « Elle le met dans son sac comme ça. Et mon père lui dit « Mais tu fais quoi là ?» Elle lui dit « Je vais récupérer notre argent. » Il lui dit « Mais on va aller en prison là ?» Elle lui dit « Non, c'est juste pour dissuader. » Et elle est partie. Et effectivement, quand elle est arrivée devant la personne, elle a sorti le sac comme dans un film d'horreur comme ça. Il a eu très peur. Il lui a dit « Madame, prenez tout ce qu'il y a dans le coffre. » Elle lui a dit « Non, je veux juste que tu me rembourses ce que tu nous as arnaqué. » Et il lui a remboursé la somme qu'il a arnaquée aux voisins. Donc ma mère a pu rembourser tous les voisins. Et mon père était super content de dire à tout le monde « Ouais, c'est ma femme. Ouais, je sais, je choisis bien. » Il n'y en a pas beaucoup dans ce modèle.
C'est grâce à moi.
Voilà, c'est grâce à moi. C'est ce qu'il disait. Si grâce à moi. C'est une expression favorite de mon père et je l'adore, cette expression. Avec son accent et tout, je l'adore. Et voilà. Et ma mère, en fait, nous a appris à ne jamais se laisser faire, surtout quand on est dans son bon droit, qu'il n'y a aucune raison de se taire. Et c'est pour ça qu'elle insistait pour qu'on soit hyper droit. Elle me disait souvent, quand tu es droite dans la vie, quand tu es droite dans tes bottes, quand tu as tout fait correctement, tu peux parler. Tu peux dire les choses. Jamais personne n'ira te dire « Oui, mais toi, non, toi, t'es carré. » Et ce côté-là, je l'ai gardé. Ce côté-là, je suis comme ma mère, là-dessus, je suis hyper carré. J'ai gardé aussi toutes les valeurs qu'elle nous a transmises, parce que ma mère nous disait toujours il faut être complètement indépendante, il ne faut pas dépendre de quelqu'un. Puis moi, quand j'étais petite, je lui disais « Non, mais moi, je n'ai pas envie de faire le ménage. » Elle m'a dit « Mais qui c'est qui va faire le ménage chez toi plus tard ?» Et je lui disais « Mon mari ou la bonne ?» Elle m'a dit « La bonne, très bien. » Elle m'a dit « Tu vas avoir une bonne. » Donc, je lui dis « Oui. » Elle m'a dit « Oui, et un jour, tu rentreras, elle sera dans le lit avec ton mari. » Alors, écoute-moi bien, il faut que tu fasses le ménage. Et j'étais petite, je ne comprenais pas trop où elle voulait en venir. Et voilà, donc elle est vraiment pareil. Quand ma mère a voulu passer son permis, mon père il lui a dit mon père il n'avait pas son permis, il voulait pas que sa femme elle l'ait avant lui, et il lui a dit mais tu vas jamais y arriver, les enfants, la maison, le ménage, le repas, c'est trop. Elle lui a dit écoute, je t'ai pas demandé ton avis, je voulais juste te prévenir. Donc elle est partie le passer. Un soir, mon père rentre, elle lui montre la feuille rose, elle lui dit regarde, j'ai eu mon permis du premier coup. Mon père est parti le passer, il l'a loupé 4 fois. Et à chaque fois qu'il le loupait, ma mère lui disait tu vas y arriver, t'as que le boulot. Donc voilà. Donc c'est cette femme forte que j'ai retenue, c'est toutes ces valeurs que j'ai retenues. Après, le côté où les garçons sont mis en avant par rapport aux filles, ça, je les zappais, d'accord ? Je l'ai même effacé de ma mémoire. Mais j'ai vraiment gardé beaucoup de choses. Et que... puis des fois, quand je parle à mes filles, je me dis à moi-même, sors de ce corps, maman. Voilà, donc je suis un peu comme elle par rapport au nettoyage, à certains trucs. Pas avec l'eau de Javel, mais par contre, le vinaigre blanc, j'y vais. Voilà, donc s'il y a des ruptures de stock dans les... c'est moi. Donc voilà, j'ai gardé vraiment ce qui fait d'elle, et puis quelque part je me retrouve par moments en elle, quoi.
Dans ton deuxième album de cette trilogie là donc Nos vacances au bled, tu parles beaucoup plus du coup de la tradition familiale, parce que tu retournes voir ta grand-mère, tes oncles et tantes. T'as toujours des liens avec eux ? Est-ce que non. Eux aussi ils ont vu ces BD ? Non.
Alors ils ont vu la BD, mais j'ai plus de lien avec eux, parce que quand les parents d'une famille meurent, j'ai envie de vous dire, on voit le visage de tout le monde. On voit le vrai visage des gens. Que ce soit dans la fratrie, je suis désolée de plomber l'ambiance, mais c'est une réalité et on n'a pas gardé contact, en fait.
Et avec tes frères et sœurs, du coup.
Tu veux les prochaines questions ?
Non, non, du tout, t'inquiète pas. Okay. Je suis une pro, au niveau de l'impro, on va y arriver.
C'est bien.
Avec tes frères et sœurs, du coup. Dans le deuxième album, là, on voit vraiment le lien que vous avez... Puis après, donc dans le troisième, c'est un peu plus effacé parce qu'il est plus centré sur toi.
Oui.
Mais donc du coup, dans ce deuxième album, ils sont très critiques dans ce deuxième album aussi par rapport à ce que tu écris et autres. Comment ils ont réagi du coup ?
Alors, ils ont bien aimé. Le 1, le 2, ils ont vachement bien aimé. Le 3, un peu moins.
Ils parlaient que de toi.
Oui, c'est parce que je suis égocentrique. Disons que, en fait, nous les filles, on a créé un lien qui est indéflectible. Le lien qui nous unit est vraiment puissant, dans le sens où on était copines et camarades de ménage avec mes sœurs. On sortait pas, donc on se retrouvait souvent ensemble. Et puis on était un peu dans la même galère, donc on ramait vraiment dans la même direction, ce qui nous a soudés à tout jamais. Par contre, les garçons, eux, ma mère avait vraiment le culte du garçon, dans le sens où elle nous le disait, hein, vos frères sont mieux que vous. Déjà, ils sont plus intelligents que vous. Moi, je savais très bien que ce n'était pas vrai. J'avais vu certaines situations où je me suis dit « Ah, d'accord. Voilà. » Et à partir du moment où voilà, c'était des garçons, ils étaient dispensés de ménage, de faire plein de choses, etc. Donc ça a créé un espèce d'écart entre les filles et les garçons. On n'avait pas cette même communication. Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, bon, je m'entends bien avec mes sœurs. Mes frères, bon, c'est autre chose. Sauf mon petit frère, parce que comme c'était le petit dernier, nous toutes les sœurs, on est arrivé autour de lui, on lui a dit « Alors toi, on va s'occuper de toi. » Et comment vous dire, il est très bien. Donc ça va. Donc on a assuré. Mais voilà, j'ai compris que avoir ce genre d'éducation où vraiment on dissocie l'homme de la femme, où on donne à l'homme un rôle supérieur à celui de la femme, où on le place au-dessus de la femme, ça ne fait que creuser des écarts et ça va pas, c'est dysfonctionnel. Et ça se répercute après dans le temps parce que, en fait, ma mère, en voulant beaucoup, beaucoup aider mes frères, elle les a pas aidés. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de choses où ils étaient incapables de se débrouiller tout seuls parce que il n'y avait plus les parents. Moi, ils étaient complètement déstabilisés quand mes parents sont morts. C'était là, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est mes sœurs et moi, on leur a dit, vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Et on s'est occupé de tout, quoi. On a su mettre de côté, on a su garder la tête froide, parce que ma mère nous a toujours appris ça. Moi, je me souviens que ma mère qui allait vidanger sa voiture et qui disait, Shadia, tu viens avec moi. Alors qu'elle avait 6 garçons. Et c'était moi qui vidangeais la voiture avec elle. Elle me disait, il faut que tu saches faire ça, il faut que tu saches te débrouiller, etc. Donc voilà, je pense que ça a créé des écarts et jusqu'à aujourd'hui, cet écart est resté. Et avec les filles, on s'entend bien, les garçons, c'est un peu plus compliqué. Et le dernier livre, je ne sais même pas s'ils l'ont lu. Oui, effectivement, je ne parle que de moi, mais parce que c'est un moment vraiment charnière dans mon éducation, je pense.
Et surtout, tu es avec tes filles, c'est ça qui est important.
Oui.
Donc du coup, dans ces deux premiers, donc, on parle bien sûr de la tradition familiale et autres, mais on voit aussi beaucoup tout ce qui est racisme ordinaire, que ce soit en France, quand tu es à l'école, ou aussi quand tu retournes au pays, parce que vous ne parlez pas forcément arabe ou autre. Comment tu l'as vécu, ça ?
Alors en France, la première fois que j'ai eu affaire à du racisme, je ne savais pas que c'était du racisme. J'avais 6 ans, j'arrive en CP, et ma mère me coupe les cheveux, et elle les brosse à sec.
C'était une très bonne coiffeuse.
Oh, dommage, je ne vous ai pas ramené les photos, je vous assure. Vous savez, les photos qu'on cache comme ça de primaire en disant oh, c'est pas moi, c'était ma sœur, parce qu'elle est trop petite pour savoir si c'est vraiment vous ou pas. Et j'avais une coupe de cheveux improbable, puisqu'en plus elle les brossait, donc ça gonflait. J'arrive en classe, je m'installe au premier rang parce que je suis contente d'aller à l'école. Et la maîtresse se penche vers moi et elle me dit tu t'appelles comment? Et je lui dis je m'appelle Shadia. Et elle me dit Shabia. Et elle m'a appelée comme ça jusqu'à la fin de l'année. Elle me dit tu vas aller t'asseoir au fond de la classe parce qu'on ne verra pas le tableau avec ta coupe de cheveux. Donc je m'installe au fond de la classe, moi pensant que c'était normal, puisque tous ceux qui étaient au fond de la classe, ils avaient la même coupe que moi. Donc c'était normal et j'aimais beaucoup cette maîtresse. Je voulais absolument l'embrasser, je voulais absolument qu'elle me prenne dans ses bras. Et à chaque fois, elle me disait « Non, j'ai un rhume ». Et elle avait un rhume de septembre à juin. Et pour punir certains élèves, elle les mettait à son bureau et elle mettait une assiette avec du qu'elle commandait à la cantine de jambon et elle lui disait mange, surtout quand c'était un élève de confession musulmane. Je l'ai jamais dit à ma mère parce que j'ai toujours pensé à donc je me suis dit non, il vaut mieux pas lui dire. J'avais déjà conscience petite qu'il fallait pas que c'était quelque chose de grave, mais sans vraiment mettre un mot dessus. Et en fait, elle a continué comme ça tout au long de l'année. À Noël, j'étais super contente d'avoir un cadeau de Noël, parce que nous, on fêtait pas Noël à la maison. Et elle ouvrait le cahier à la plus belle note. Moi, elle l'ouvre là où il y a une grosse tache d'encre. Et elle me dit non, toi, on va laisser là-dessus et on va voir si le Père Noël t'offre un cadeau, espèce de cochonne. Comparaison soigneusement choisie. Et je l'ai supplié, je me suis jetée à genoux et je lui ai dit s'il vous plaît madame, je vous en supplie, j'ai jamais eu de cadeau de Noël, j'aimerais bien, ne le dites pas au Père Noël. Elle m'a dit non, elle m'a dit on verra bien, ça sera comme ça, ça reste comme ça. Le midi, je ne mange pas, je suis calée à la fenêtre en espérant capter le traîneau du Père Noël parce que j'habitais juste en face de l'école. Je le vois pas, je vais à l'école et là, cadeau hyper sexiste, mais cadeau quand même. Un train électrique pour les garçons et des poupons et une poussette pour les filles. J'étais super contente. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ma période préférée, c'est Noël. Vraiment. Mais je n'ai pas eu conscience, effectivement, qu'il y avait du racisme ordinaire. Je vais en Tunisie. C'est à peu près... C'est moins brutal, moins frontal, mais tout aussi insinueux dans le sens où partout où j'allais, on savait que moi, je venais de France. Je ne savais pas où c'était écrit, mais je pense que de par mon attitude et puis ma façon de parler aussi, et ce qui fait que ma mère me disait, quand on rentre quelque part, elle m'a dit, tu dis rien, tu me laisses parler. Parce qu'elle n'avait pas d'accent, donc elle n'avait aucune possibilité de se faire attraper là-dessus, etc. Et en fait, c'est là où j'ai pris conscience, parce que je suis allée en Tunisie, j'étais adolescente. Enfin, les souvenirs les plus que j'ai le plus retenus, c'est à partir de l'adolescence. Et je me suis dit, en fait, OK, je suis pas chez moi en France, on me dit que je suis pas chez moi, ok. Et en Tunisie, on me dit, bah non, toi, t'es française. Et en fait, je trouve qu'on est un peu, nous, les enfants d'immigrés, un peu une race hybride. Ni de là, ni de là, un peu de là, un peu de ça. Et, alors que, voilà, moi, effectivement, je peux pas dire je suis bretonne. Non, on va me dire... Mais j'ai été élevée au biberon de la France. Les livres que j'ai lus, les premiers livres que j'ai lus, c'était en français. J'ai un rapport avec cette langue qui est presque de l'ordre de l'intime, quoi. Donc, je suis un peu des deux. Et voilà. Mais comme je dis souvent, ma vie, si c'était une ligne, elle serait à peu près comme ça. Moi, j'ai 52 ans, elle serait comme ça. Et dans cette ligne, j'ai rencontré ça, de gens horribles et racistes. D'accord ? Tout le reste, c'est des gens formidables. Mais vraiment, vraiment, c'est des gens qui m'ont apporté et tout. Dieu merci, je ne rencontre pas un raciste tous les 4 matins. Oh, ça m'est arrivé ce week-end. J'étais en déplacement. Je vais pour me servir du jus d'orange à l'hôtel où je suis. Le jus d'orange n'est pas dans le frigo. Je vois qu'il est sur une table près d'une dame. Je m'approche vers elle. Je dis bonjour madame, est-ce que vous permettez ? Elle m'a dit non. Bon, je l'ai quand même pris. oui. J'attendais que ça, moi, de me battre et tout. Enfin, non, c'est pas vrai. Donc voilà. Donc, on rencontre des gens, mais bon, il y a pas. C'est un peu partout qu'il y a tout ça, j'ai envie de dire. Mais et c'est pas là-dessus que je me focalise, moi. J'essaie d'avancer et de tourner ça à l'autodérision. Et je m'en sers dans mes BD. Donc, si vous voulez être assisté avec moi, vous figurerez dans ma prochaine BD. Voilà.
On va parler du coup du dernier de cette trilogie, donc Liberté, Égalité, S'émanciper. Tu as eu le prix lycéen, lycéenne 2025 du Festival BD Boom. Qu'est-ce que tu as ressenti au fait d'avoir reçu ce prix ?
Alors, est-ce que des personnes dans la salle qui étaient là lors de la remise du prix, d'accord ? Alors, vous me comprendrez, ces personnes-là. Quand on m'a appelé, c'était mi-figue, mi-raisin, parce que la personne qui m'a remis le prix, a dit, avant que je monte sur scène, « Oh, mais c'est pas pour elle que j'ai voté. » Voilà. Moi, j'ai entendu « Mais qu'est-ce qu'elle fout là ?» Voilà, donc j'ai eu beaucoup de mal à monter sur scène. Mais il m'a dit après « C'était bien quand même. » Donc, voilà. Ça m'a permis de faire une petite blague. Voilà, j'adore faire des blagues, mais je suis super contente parce que j'habite la région centre, j'habite Chartres. Et je suis contente que les élèves aujourd'hui, de savoir que ce sont des bandes dessinées qui sont lues dans les lycées, les collèges, d'apprendre que par exemple en troisième on étudie l'autobiographie. Enfin, moi je me dis quelle belle avancée pour la bande dessinée. Et je me dis qu'ils ont beaucoup de goût en centre région Val-de-Loire quand même, les jeunes étudiants. Donc voilà, donc j'ai été extrêmement émue et touchée et un peu en galère quand j'ai repris le train après, parce que j'avais un gros chèque avec 1 500 € écrit dessus. Et on m'a dit, madame, vous n'avez pas une petite pièce ? Ce à quoi j'ai répondu, non, j'ai pas d'argent. J'étais pas crédible. Voilà.
Qu'est-ce que ça fait de dire que tu peux être aussi l'exemple pour des jeunes filles ou des jeunes garçons qui subissent un petit peu de l'oppression familiale ou voilà, comme toi, tu as pu avoir ?
J'ai envie de leur dire qu'un jour, ça s'arrête tout ça. On ne peut pas continuer à oppresser les gens comme ça, vitam aeternam. Et que s'il n'y a pas d'autre solution, s'armer de patience, mais il y a d'autres solutions aujourd'hui. Ce n'est pas possible de faire comme ça. Et surtout, je ne peux pas vraiment donner d'exemple par rapport à la famille dont on est origine et quand on subit ça. Parce que moi, j'ai personnellement fugué. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que si un jour vous avez des enfants vous-même, retenez la leçon. Et ne reproduisez pas la même chose. En fait, il faut que ça s'arrête. Je pense que moi, ce type d'éducation, j'ai toujours vu ça chez moi, où les garçons étaient mis... Je me rappelle quand on allait en Tunisie, tous mes oncles et mes frères étaient allongés comme ça, puis on leur mettait le ventilateur vers eux, d'accord ? Et nous, on était à côté du four, il faisait déjà 50 degrés, et on n'avait pas de ventilateur. Et il fallait en plus, pendant qu'on faisait à manger, leur préparer une assiette de pastèque fraîche pour qu'ils puissent se rafraîchir. Non mais... Je trouvais ça horrible. Je rêvais d'être un garçon quand j'étais jeune et je trouvais qu'être une fille, c'était une malédiction. Et aujourd'hui, je trouve que c'est l'inverse, en fait. Et voilà, ce que j'ai envie de dire à ces gens-là, c'est ne reproduisez pas ce schéma. Moi, j'avais peur quand je me suis mariée, pas de toi, mon amour, mais j'avais peur de reproduire la même chose si je mettais au monde un garçon. J'avais vraiment peur d'être dure avec lui. J'avais peur qu'à chaque fois que mon mari rentre, il me dise « Mais pourquoi il est toujours avec un tablier et un aspirateur dans les mains, lui ?» Voilà, enfin, voilà. Et j'ai eu 2 filles et j'ai essayé de les éduquer comme ça, en leur disant « Personne n'est l'esclave de l'autre ». D'ailleurs, elle le voit bien, parce qu'avec mon mari, il y a un parfait équilibre. Et je vais même vous dire une chose, j'ai la chance d'avoir un mari qui cuisine tout le temps. Je ne cuisine jamais. D'accord ? Et en plus, le dimanche matin, il regarde des émissions culinaires. Je lui laisse la liberté de la télécommande. Pourquoi ? Parce qu'après, il va me faire la même chose dans la cuisine. D'accord ? Et il me dit, ça te dérange pas que je regarde cette émission culinaire ? Je lui dis, mais non, mon chéri, regarde ! Voilà, parce que je sais qu'après, je vais manger. Voilà, il y a un équilibre entre mon mari et je comprends pas. Et ça marche très bien, ça fonctionne très bien. Je comprends pas pourquoi quelqu'un doit prendre plus de charges que quelqu'un d'autre. On n'a pas des épaules beaucoup plus larges, on n'a pas ça dans la... Une fois, un de mes frères m'a dit, mais je comprends pas comment ça marche la machine, explique-moi, toi, tu sais. Je lui dis, mais tu sais, c'est pas dans mon code ADN, hein, tu regardes. Je lui dis, t'as vu, il y a des petits dessins. Même si tu sais pas lire, tu peux comprendre. C'est pas possible, quoi. Tout ça, c'est pas possible. Il faut que ça cesse, quoi. Il faut qu'on arrête... De placer les uns au-dessus des autres, d'avoir ces inégalités. Et c'est ce que le féminisme veut dire. Ça veut dire égalité, en fait. C'est-à-dire qu'on veut l'égalité, qu'on veut être vraiment traité de la même manière. C'est pour ça que j'en parle avec mes filles, parce que pour moi, c'est important. Et je me suis longtemps considérée comme le mouton noir dans la famille, parce que des gens me le font savoir, parce que j'ai fugué, et c'est quelque chose qui ne se fait pas. J'ai trop envie de vous raconter pourquoi. Mais on n'a pas le temps.
Ça va venir après. Vas-y.
Ok. Vas-y. Ouais, bon, alors vas-y, je te laisse poser la question. Et voilà. Bon, mauvaise transition, j'avoue.
Donc du coup, ce dernier album est un petit peu plus personnel et tu parles vraiment de ton ressenti avec comment ça se passe dans ta famille. Du coup, vu que tu as fait l'intro, le teasing de ce qui allait se passer, est-ce que tu peux nous parler de cet album et le déclencheur de...
Mais oui.
Voilà.
Voilà, alors je vous avais dit que j'ai commencé à fumer en cachette et pour le coup, avant de rentrer chez moi, je scotchais mon paquet de cigarettes dans l'armoire électrique à l'étage d'en dessous, derrière l'armoire électrique. Un miracle que je ne me sois pas prise 220 volts jusqu'à aujourd'hui. Et je rentrais chez moi, ni vu ni connu, ou alors je laissais mon paquet de cigarettes à ma copine. Et à l'époque, quand j'étais jeune, il n'y avait pas de portable. Oui, on a vécu sans portable et on a pu vivre très bien sans portable. Et on avait le téléphone fixe, donc celui qui est branché à la maison. Et quand le téléphone sonnait, il n'y a que ma mère qui pouvait décrocher. Je parle beaucoup de ma mère, donc vous aurez compris qu'elle était le lead de la famille. Hein. Parce que mon père, il disait, qu'est-ce qu'elle a dit ta mère ? Et je disais, bah, elle m'a dit de voir avec toi. Il m'a dit, non, retourne lui demander quand même, parce que c'est elle qui compte. Parce que voilà, elle avait le dernier mot. Et il n'y a que ma mère qui décrochait. Et quand elle décrochait, au son de sa voix, on savait si c'était pour une fille ou pour un garçon. Si elle répondait gentiment en disant, oui, mais on est bien sûr, mon petit chéri. C'était pour un de mes frères. Et si elle posait plein de questions et qu'on avait l'impression que c'était le KGB, c'était pour les filles.
Elle t'écoutait aussi parfois.
Oui, justement, j'allais y venir. Donc un soir, ce fameux téléphone sonne à la maison et on regarde tous la télé, bien entendu. Le téléphone sonne, ma mère décroche et elle commence le KGB. Donc elle commence à poser plein de questions et on se dit, oulala, j'espère que c'est pas pour moi. Enfin, les filles se disaient ça parce que les garçons, ils se disaient, tiens, ça va être marrant. Là, ma mère me passe le téléphone, elle me dit, Shadia, c'est pour toi. Donc je vais comme un condamné à mort vers le téléphone. Je prends le téléphone comme ça. Elle prend l'écouteur, elle le met sur son oreille, elle me regarde et elle me fait. D'accord ? Je vois que tout le monde parle le langage parental. Hein. Celui avec les yeux, là où vous faites des gros yeux comme ça, vous comprenez tout de suite qu'il vaut mieux pas. Voilà. Et là, j'entends. Puis mon père baisse le son de la télé, bien entendu. Tiens, c'est pas marrant. Et j'entends allô, Shadia, c'est Corinne, c'était ma copine. Est-ce que quelqu'un écoute ? Et ma mère, elle me fait. Donc j'ai répondu non, mais c'était un non ni convaincant ni convaincu. Et elle me dit, je te passe quelqu'un. Et là, comment vous dire, il y a une petite voix qui m'a dit, raccroche. Mais bien entendu, cette voix-là, on l'écoute jamais. Hein, donc j'ai pas raccroché. Et là, j'ai entendu, donc elle me passe quelqu'un. Et là, j'ai entendu un garçon qui, je suis sûre, a exercé sa voix. Il m'a dit avec une voix suave, allô, Shadia. C'est Khalil. Et là, ma mère, elle m'a regardée en plissant les yeux. Puis elle a commencé à me faire cette moue qu'on fait chez nous quand on n'est pas d'accord avec un sujet ou que la suite sera vraiment terrible pour vous. Et il me dit, ah, je te dérange pas. J'ai failli dire oui, mais j'ai rien dit. Il me dit, voilà, tu me plais beaucoup. Ma mère, elle me regarde, elle me fait, ah. Oui, vraiment, tu me plais vraiment, mais je peux jamais venir parler avec toi parce que t'es tout le temps dans le coin fumeur avec tes copines. Et là, c'était surréaliste. Ma mère, elle m'a regardée, elle m'a dit ah « Tu fumes !» Je lui ai dit « Non, maman, je te jure sur ta tête. » Oui, j'ai osé dire ça. Dites-moi que vous ne l'avez jamais fait. Que celui qui n'a jamais fauté me jette la première pierre. Gardez vos cailloux pour tout à l'heure. Et là, je jure que je n'ai pas fumé. Et puis là, toute ma famille est en train de parier. Tu crois qu'elle va se faire tuer ou... Non, moi, je parierais plutôt pour se faire étrangler avec le câble téléphonique. Et là, il continue, Roméo. Oui, je t'aime. Je veux sortir avec toi. Et là, ma mère, elle lui arrache le téléphone des mains. J'ai changé sur dans la BD, mais en fait, elle lui a dit, tu veux sortir avec ma fille ? Faut d'abord sortir avec moi. Et là, il voulait pas parce que j'ai entendu tut tut, donc il a raccroché. Et là, ma mère me dit, tu fumes ? Je lui dis, mais non. Et bien entendu, comme dans toutes les familles nombreuses, il y a toujours un collabo qui se propose à la surveillance, n'est-ce pas ? Donc ma grande sœur s'est levée en disant, si tu veux maman, moi je la surveille. Effectivement, elle m'a surveillée et elle m'a grillée. D'ailleurs, elle m'a grillée et elle m'a dit, je ne le dirai pas maman, mais tu fais mes tâches ménagères. Donc j'avais double tâche ménagère. Et quand je voulais me rebeller en disant, je suis fatiguée, elle me faisait comme ça, avec ses doigts. Donc voilà. Et pour le coup, ma mère me fouille. À partir de ce jour-là, elle me fouille. Elle me demande de vider mes affaires quand j'arrive de l'école. Je pose mon sac, je dois écarter les bras et les mains. Elle me fouille. À 3h du matin, elle allume la lumière dans ma chambre. Elle me dit, tu sors de ton lit, tu mets les bras le long du corps, tu ne touches plus à rien. J'étais prête pour l'armée, moi. J'aurais pu être colonel. Hein. J'aurais pas de soucis avec les rondins de bois sur le dos et tout, il n'y a pas de problème. Donc moi, j'étais prête parce que je ne cachais rien chez moi. Et je faisais très attention en me croyant hyper maligne. Et en fait, les fouilles ont cessé, donc je me suis dit, ça y est, c'est la fête, ça s'arrête là. Et en fait, non. Un jour, j'étais en train de fumer comme ça devant le lycée, et j'entends un coup de frein. Et ma copine, elle me dit, oh, tiens, c'est ta mère, elle arrive. Et en fait, ma mère avait laissé la voiture avec la portière ouverte. Je me demande si elle n'est pas tombée comme ça, enfin, elle n'est pas descendue en roulade avant, je ne sais pas. Et elle arrivait à ma j'avais ma cigarette dans les mains, je ne pouvais pas l'acheter parce que ma mère arrivait par derrière. Donc je la lâche, ma copine met son pied dessus. Jusque-là, tout va bien. Ma mère m'attrape, elle me retourne, elle me dit, tu fumes ? Alors elle me dit, je croyais que tu fumais pas. Et je lui dis, mais non, maman, je fume pas. Sauf que j'avais oublié d'éjecter la fumée. Donc ça a donné, maman, je fume pas. Voilà. Et là, elle m'a dit, tu me mens. Elle a enlevé ses lunettes et elle m'a giflé devant le lycée. Et suite à ça, donc alors, il faut savoir que ma mère est partie voir le directeur du lycée. Ensuite, elle est partie à l'inspection académique et elle a fait fermer les portes du lycée. Il fallait montrer son carnet de correspondance pour entrer et sortir. J'ai appris qu'aujourd'hui, c'était de rigueur. C'est ma mère qui a instauré ça en France. Voilà, je tiens quand même à rappeler ça, c'est important. Et effectivement, j'ai fugué. Et bien des années plus tard, j'ai rencontré un jeune garçon. C'est toujours pas toi, chérie. Il me regarde, il me dit, mais ton visage me dit quelque chose. Il était super beau. Et j'étais là, ah oui, tu m'as vu où ? Il m'a dit, c'est pas toi qui as pris une baffe devant le lycée ? Ouh là là. Alors comment vous dire, il y avait les répulsifs à moustiques, ma mère c'était un répulsif à homme, ce qui explique que je me sois mariée à l'âge de 30 ans. Donc pour elle, 30 ans c'est vraiment la date limite de péremption. Hein. Voilà.
Du coup c'est à ce moment-là qu'il y a eu le déclenchement et du coup que tu as fugué.
Oui, parce qu'en fait quand on est revenu de l'inspection académique, elle était en colère et elle m'a dit, si t'as eu honte pour ce que je t'ai fait devant le lycée, elle m'a dit attends de voir ce qui t'attend à la maison. J'étais une jeune fille, j'étais terrorisée. Pour ma mère, fumer, c'est comme faire du striptease. C'est pareil, c'est le même niveau. J'étais effrayée, donc dès qu'elle s'est arrêtée au feu rouge, j'ai pris mon sac à dos. J'avais aucun papier d'identité, pas d'argent, et je suis partie, ouais.
Donc après, tu as pris contact, c'était ta CPE, il me semble.
Avec ma CPE, qui connaissait très bien ma mère, parce que chaque année, ma mère exigeait d'elle qu'elle nous certifie conforme l'emploi du temps, pour être sûre qu'on ne rajoute pas les cours, histoire d'aller voir des garçons et faire des bébés, parce que, bien entendu, c'est le rêve de toute femme, de tomber enceinte à 17 ans.
C'était un peu une chance de l'avoir rencontrée du coup, parce que c'est elle quand même qui t'a beaucoup aidée pendant cette fugue, cette pause de ta famille, et c'est elle aussi qui t'a permis de le recontacter avec ta famille.
Oui, je me rappelle qu'elle m'avait même fourni une copie de ma pièce d'identité, parce qu'elle avait une copie par rapport à l'établissement, et c'est elle qui renouait le contact, parce qu'elle arrivait à parler avec ma mère, c'est elle qui a recréé le contact, mais j'ai quand même mis 4 mois avant de rentrer chez mes parents. Donc je me suis installée dans un foyer de jeunes filles qui étaient tenues par des sœurs religieuses que tout le monde trouvait hyper difficiles. Moi, je les trouvais cool. Ah, c'était la fête, hein. C'était les colonies de vacances en fait.
Est-ce que est-ce que tu as gardé contact avec cette CPE ou même avec les bonnes sœurs ?
Alors non, parce que les bonnes sœurs ne discutaient pas trop avec les jeunes filles. Elles étaient hyper strictes, quoi. Il n'y a que moi, quoi. Moi, elles étaient contentes parce que je débarrassais. C'était la première fois qu'elles voyaient ça. Mais c'est un réflexe chez moi, en fait. Partout où je vais, je débarrasse. Je me rends compte que même si je vais dans un restaurant 5 étoiles, je ramasse quand même les couverts. C'est pas de ma faute. Non, elles étaient quand même... Donc, j'ai pas gardé contact avec les sœurs religieuses, ni avec ma CPE, qui, je pense, aujourd'hui, doit être à la retraite depuis déjà bien longtemps. Mais je le regrette, parce que je pensais pas qu'un jour, j'allais revenir sur cette histoire.
Si tu devais rencontrer la Shadia à ce moment-là, qu'est-ce que tu aurais voulu lui dire ? Est-ce que tu aurais voulu lui dire que c'était une bonne chose qu'elle a fait ou...
J'aurais écrasé une cigarette comme ça, là, en disant « Arrête ! Arrête, regarde, je fume encore à cause de toi !» Et j'aurais dit « T'inquiète pas, ça va bien se passer. » Et je leur ai dit, accroche-toi à ton rêve de vouloir écrire et n'écoute pas les gens qui te disent que c'est pas à toi. Et j'aurais peut-être donné aussi le nom de mon mari en disant, laisse tomber avec les autres, voir lui, il est pas mal. Mais je lui dirais surtout que ça va aller.
Comment s'est passé du coup le retour, le après, quand tu t'es retournée dans ta famille? Je crois que tes frères et sœurs, même tes parents étaient très heureux que tu sois revenue. Comment ça s'est déroulé ensuite?
Alors, les premières années, très bien. Et j'ai même vu un changement parce que mes parents ont été beaucoup plus permissifs avec mes sœurs. J'ai notamment une de mes sœurs qui est devenue gendarme et qui a dû partir à Saint-Lô en Bretagne alors que moi, je n'avais pas le droit d'aller à la poubelle en bas de la maison. Donc, je trouvais que ça, c'est vachement bien. Mes parents laissaient mes sœurs sortir. Il y a eu vraiment plus d'écoute, plus de permission. Un peu moins de mon côté, parce que moi, j'étais quand même restée celle qui fume, celle qui a fugué. Enfin, moi, j'ai fait vraiment ce que personne n'avait fait jusque-là.
La rebelle, quoi.
Ouais, j'étais le mouton noir. Ma mère n'aimait pas trop que je reste discuter avec mes sœurs. Et elle me disait souvent, sors de la chambre. Et je lui disais, mais pourquoi? Elle me dit, parce que t'es une tomate pourrie. Et elle m'a dit, si tu restes dans le panier, ça va pas le faire. Et toutes mes sœurs, en fait, se sont mariées pour quitter la maison. Et moi, j'ai pris un appartement pour mon indépendance, parce qu'à un moment donné, j'arrivais plus. J'arrivais plus à communiquer avec ma mère. C'était hyper conflictuel et tout passait par le mariage. Il fallait se marier, mais il faut que tu te maries. Non, moi, je voulais faire des études et je trouvais que j'avais pas besoin d'être une femme accomplie, enfin, avec une bague au doigt pour être une femme accomplie. J'avais pas envie de ça. J'avais pas envie de sortir de chez moi pour aller chez quelqu'un. Non. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens que t'aies pris un appartement comme ça? Je lui dis, bah, vous ferez des réunions, vous en parlerez et puis tu me feras un résumé. Mais j'ai jamais regretté, quoi. Si t'as refait, je referais exactement la même chose. Parce qu'à partir du moment où j'ai pris mon appartement, mes relations se sont apaisées avec ma mère. C'est dingue, hein, mais parfois l'éloignement fait que ça fonctionne mieux. Et c'est même elle qui est venue m'accrocher mes rideaux. Chez moi, pour vous dire. Et puis elle venait souvent à l'improviste en me disant mais tu lis, tu passes ton temps à lire. Et je pense qu'elle devait m'imaginer comme ça autour d'une barre en train de faire... Mais non. Et ça l'a aussi un peu apaisée. Ça a vraiment, vraiment apaisé... nos relations à toutes les deux.
Cet album, c'est ton album, mais c'est aussi ton album pour tes filles.
Oui.
Qu'est-ce que tu as voulu leur transmettre?
J'avais voulu leur parler un peu de l'éducation, parce que souvent, elles m'ont dit, maman, je ne comprends pas, quand on va chez les tontons, ce n'est pas la même chose. Et puis, des fois, ma fille, elle me dit, maman, je suis contente que ce soit toi, ma maman, dans cette famille. Et ce que j'ai essayé de leur transmettre, c'est... J'ai commencé cet album, en fait, avec un poème, un extrait du poème de Khalil Gibran, le prophète, qui dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants ». Et je le trouve très juste, ce poème. Et ce que j'essaie de transmettre à mes enfants, c'est si plus tard vous avez des enfants, essayez d'être à l'écoute de ce qu'ils veulent. Essayez de ne pas vouloir toujours imposer votre vision, parce que la vision qu'on a en tant que parent, même si on sait pertinemment que c'est la meilleure, mais ce n'est pas forcément la vision que les enfants ont. Et il faut communiquer, il ne faut pas imposer à ses enfants. Et ce n'est pas parce que tu es un garçon ou une fille que tu dois être éduqué différemment. Et les dangers qu'il y a en tant que jeune fille, quand on est une femme et qu'on se promène dans la rue, toutes les agressions sexuelles qu'il y a, c'est souvent les hommes vers les femmes. Et je pense, moi, que si on éduquait de la même manière, si on plaçait tout le monde sur un même piédestal, ça réduirait ça aussi. Donc voilà, j'essaie de leur dire, essayez de transmettre. Si vous avez trouvé que mon éducation, elle vous a plu, que vous me dites que je suis une super maman, j'attends de vous que vous fassiez la même avec vos enfants. Et que vous ayez, si vous voulez pas d'enfants, n'en faites pas. N'en faites pas pour en avoir et ensuite les délaisser. Et ensuite, bâcler au niveau de l'éducation. C'est vraiment tout ce que j'ai essayé de leur transmettre. Et puis aussi pour qu'ils sachent un peu, parce que moi je leur ai jamais caché que j'ai fugué. Voilà, je leur ai dit, maman, elle a fugué. J'ai même une de mes filles qui m'a dit, mais je serais partie plus tôt, moi. Et ça m'a bien fait rire. Et voilà, je voulais qu'elles sachent, je voulais qu'elles connaissent cette partie de mon histoire, parce que c'est une partie qui m'a beaucoup forgée, en fait.
Merci, Shadia. Merci surtout pour tes albums qui sont vraiment sincères et pleins de force. Ça a été un plaisir de les lire. Et puis tu rentres complètement dans le sujet cette année de la semaine L avec la résistance et puis la résilience. Et puis si tu as un petit peu de temps, si certains souhaitent peut-être faire signer...
Oui, bien sûr.
Voilà.
Ou m'inviter chez eux.
Non,
c'est cinéma.
Tu m'as dit que ton mari te faisait dîner.
Non, mais ça peut. Il va se reposer un peu le profil cuisine. 365 jours par mois.
Donc si quelqu'un sait bien cuisiner, vous savez.
Si bonne recette. Merci messieurs, dames. Merci à vous.
Merci à vous tous d'être venus.
Merci beaucoup.